CPU carré petit utile.
Où nous allons parler des casse-briques. Atari, l'entreprise qui a créé le célèbre jeu Pong, le premier jeu vidéo de bar, vient d'être vendu au groupe Warner pour un montant record en 1976, 30 millions de dollars. Mais Nolan Bushnell, son géniteur, cherche à rester innovant dans ce marché qui explose depuis 5 ans. Il va sortir la première console de jeu évolutive via les cartouches, la Atari Video Computer System, renommée plus tard Atari VCS 2600. Mais dans l'immédiat, il veut transformer son coup d'essai dans les salles d'arcade et s'imposer à côté des flippers avec un jeu vidéo simple, compréhensible par tous et donnant un sentiment d'excitation à tenter de le maîtriser. On imagine ce qui a dû passer dans l'esprit de Nolan Bushnell. Un espèce de jeu Pong avec un seul joueur qui aurait un défaut. La balle efface un bout du mur en rebondissant comme les rangs de cible en triplette dans les flippers. Ainsi naquit Breakout, le premier casse-brique. Si une maquette du jeu est rapidement construite, elle se monte assez gourmande en processeur et autres circuits imprimés. Elle est donc relativement chère, mais surtout compliquée à maintenir. Bushnell demande à l'un de ses nouveaux employés de lui produire une carte avec le moins de processeurs possible, prime à la clé. Gros défi pour le jeune Steve Jobs, mais un de ses amis a justement un incroyable sens du design matériel simplifié au possible. Steve Wozniak, un camarade de petite délinquance du week-end, maniant ensemble le fer à souder pour fabriquer des Blue Box, un montage parasitant le système de facturation des appels téléphoniques longue distance. À l'époque, bon sang diurnement chez Hewlett Packard, Wozniak sèche et va en 4 jours monter son savoir-faire génial. La technologie utilisée sera non pas à base de microprocesseurs, mais de logique discrète. Il aura même l'astuce de mettre de la couleur à l'écran avec de simples caches en plastique coloré. La technologie utilisée dans cette carte de test fut beaucoup trop difficile à industrialiser par Atari, qui fut contraint de faire la première émulation connue comme board arcade. Il fallait en effet reproduire sur microprocesseur non pas un programme, mais émuler la logique d'un câblage électronique. Jobs partagea les 750 dollars promis par son patron avec Wozniak, soit 10 dollars par circuit économisé, mais pas les 7500 dollars de prime. Woz a pris l'embrouille largement plus tard alors qu'il avait déjà beaucoup de reproches à faire à son associé Jobs. Ce fut la goutte d'eau qui fit partir Woz de leur boîte Apple, mais ça c'est une toute autre histoire. Le jeu avait une difficulté progressive avec différentes phases d'accélération de la balle et la réduction de la batte vers la fin du tableau. Mais il ne comprenait que 2 niveaux. Et après, eh ben écran vide. À l'époque, les kill screens n'étaient pas rares, le moment où la bande d'arcade plante car rien n'était prévu à ce niveau de difficulté. Atteindre un kill screen était la juste récompense du bon joueur, la ligne d'arrivée. Atari fit son beurre de la licence, le jeu fut porté sur toutes les consoles et ordinateurs familiaux de l'époque, vraiment le must-have. Son portage sur Apple II eut droit à plus de niveaux, popularisa les manettes potentiométriques, permit d'introduire les fonctionnalités sonores de l'ordinateur, eh oui, et fut rédigé par Steve Wozniak. Eh oui, encore The Woz. À ma connaissance, il semble qu'Atari n'a jamais demandé de droit à Apple par respect pour son génie. Good game, Woz.